L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, en direct et en public depuis le studio 105 de la Maison de la Radio et en présence d'un public qui remplit entièrement ce studio et devant lequel nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bugeon de L'Étang, ambassadeur de France, dont la voix est méconnaissable et qu'il la qualifie lui-même de chanteuse réaliste. Mais nous ne lui demanderons pas de nous chanter « Mon amant de Saint-Jean », encore que, peut-être à la fin. Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. L'émotion a été grande depuis la semaine dernière. Je n'ai évidemment pas l'intention de ranimer le débat, sauf si on m'y contraignait. Tous les protagonistes se sont exprimés, leurs arguments sont consultables sur le net et leur discussion se poursuit. Je me bornerai à remercier les auditeurs, si nombreux à m'écrire, à nous écrire, plusieurs centaines de lettres, particulièrement substantielles, sans compter les messages sur les réseaux sociaux, nous donnent à comprendre le prix que ces auditeurs attachent à une émission de conversation préparée et affable, l'idée qu'ils se font de la liberté d'expression, du service public, et donc l'importance, à leurs yeux, des enjeux d'une décision qui a été et qui continuera à être discutée. J'ajoute que, sans doute, faudrait-il que nous lancions une souscription dans le but d'ériger une statue à Jean-Louis Bourlange, et je propose qu'elle soit équestre. En attendant cet événement artistique important, oui, il faudra un gros cheval. En attendant cet événement artistique important, je vous propose que nous nous intéressions au populisme dans la campagne présidentielle. Depuis le début de la campagne présidentielle, la rhétorique du peuple est au cœur de la stratégie électorale d'un grand nombre de candidats qui ont bâti leur campagne sur la volonté de redonner la parole, voire la priorité au peuple français. Ce sont les expressions qu'ils emploient. Dans cette perspective, le recours au référendum apparaît comme un argument démocratique implacable. L'immigration et l'Europe sont particulièrement pointées du doigt par la candidate du Front National, qui propose, je cite, de rendre au peuple français sa souveraineté nationale en organisant plusieurs référendums sur l'appartenance du pays à l'Union européenne ou encore l'inscription d'une priorité nationale en matière d'emploi dans la Constitution. Jean-Luc Mélenchon a quant à lui exprimé son désir de sortir des traités européens qui, je cite, soumettent les peuples à la dictature des banques et de la finance. Nicolas Dupont-Aignan entend remettre en cause ces traités et suspendre l'espace Schengen. Et sur les questions liées à l'immigration, il dit aussi vouloir freiner les flux afin de ne pas laisser, je cite, l'immigration prendre le dessus sur la natalité. François Fillon, qui a désavoué la politique migratoire d'Angela Merkel, se propose lui aussi de réguler l'immigration. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont été critiqués pour avoir choisi une stratégie électorale populiste, reposant sur un principe d'identification affranchi de la structure intermédiaire du parti, la rencontre d'un homme avec son peuple. Les deux candidats auraient ainsi refusé de se présenter à la primaire de la Belle Alliance Populaire afin d'élargir leur électorat et d'opposer le rassemblement du peuple au clivage gauche-droite. En outre, le Parti Socialiste et le nouveau Parti Anticapitaliste ont vivement reproché au candidat de la France Insoumise ses velléités souverainistes et son scepticisme européen. Pour eux, sa rhétorique germanophobe ou ses positions sur l'immigration, je cite, rejoindraient un populisme associé à l'extrême droite. Les attaques contre les juges, enfin, et les appels au jugement des électeurs contre les décisions de justice sont venus de François Fillon, convoqué en vue d'une mise en examen le 15 mars prochain, et de Marine Le Pen, qui, en refusant de répondre à une convocation d'un juge d'instruction, a dénoncé, je cite, « une instrumentalisation de la justice à des fins politiques ». Sur cette question, Thierry Pech.
Ce terme de populisme est mis à toutes les sauces, y compris par nous d'ailleurs depuis quelques années. Il revient à la fois à qualifier des proximités avec les pires souvenirs du XXe siècle, d'ailleurs acception dans laquelle il est peu pertinent, des proximités avec le Front National, des débordements caractéristiques de l'extrême gauche. Mais au fond, on a du mal à attraper le sens profond de cette notion qui dans la littérature d'ailleurs politiste est parfois décrite davantage comme un style que comme une idéologie. Si on fait un rapide balayage historique des occurrences ou des sources du populisme, on a des choses effectivement très différentes, assez démocrates aux États-Unis avec les mouvements agrariens, plus plébiscitaires, autoritaires dans notre histoire nationale avec Napoléon III, le boulangisme. Bon, donc. Je crois que ce qui importe aujourd'hui, c'est d'essayer de savoir de quoi on parle. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'au fond, le populisme est un objet assez plastique. Alors, dans l'actualité récente, on a eu des accents populistes, et notamment sur deux points que vous avez rappelés, Philippe. Les attaques contre les juges, à l'occasion du Penelope Gate et de l'affaire Fillon. Et puis les attaques contre la presse. Alors, les attaques contre les juges sont allées assez loin. On les connaît. Je veux dire, on a déjà eu des polémiques sur le gouvernement des juges à la fin des années 90, au moment où le débat justice et politique était le plus intense, d'ailleurs, ces 20 dernières années. Mais là, on est allé un cran plus loin, puisqu'un candidat, Marine Le Pen, a joué de l'intimidation des fonctionnaires dans un discours. Elle est allée vraiment beaucoup plus loin, en leur disant, le jour où je serai au pouvoir, en substance, attention, hein, parce que ça se passera pas comme ça. Sur la presse, les attaques ont été aussi extrêmement virulentes, d'autant plus virulentes que les médias traditionnels sont dans une position souvent difficile. Les critères de véridicité ou de vérité dans l'espace public sont aujourd'hui atteints par toutes sortes de mécanismes, et notamment par la libération des passions sur les réseaux sociaux. Donc on est allé assez loin, y compris d'ailleurs pas simplement chez Marine Le Pen. J'ai entendu Pascal Cherki du comité de campagne de Benoît Hamon expliquer qu'il faudrait réintégrer dans les comptes de campagne d'Emmanuel Macron le salaire du directeur de la rédaction du Monde. Bon, vous voyez, ça n'ira peut-être pas loin. Ça modifiera. Vous voulez dire que ça ne modifiera pas substantiellement les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, c'est ça? Donc, on est allé tout de même assez loin.
Les comptes de campagne du Monde préféreraient intégrer le salaire d'Emmanuel Macron. Enfin, quand il
alors,
était dans
alors
la banque.
Là, je vous laisse la responsabilité de ces propos,
quand
Philippe.
Quand il était dans la banque.
Je vous laisse. Mais,
populiste.
Oui, voilà. Ça, j'osais pas le dire, mais comme. Bon.
C'était pour donner un exemple.
Alors, tout ça est caractéristique d'un premier trait typique du populisme, c'est l'attaque contre les médiations et contre les contre-pouvoirs. Voilà. Ça, c'est une constante de l'histoire des populismes. Ils considèrent que, au fond, ces pouvoirs intermédiaires ou ces régulations intermédiaires ou ces pouvoirs inappropriables que sont les pouvoirs, par exemple, judiciaires, ces pouvoirs n'ont pas de légitimité parce qu'ils ne sont pas élus. Hein, je crois que Napoléon III disait à la presse « Vous n'êtes pas élu. Moi, je suis. » Bon. Donc ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est l'appel à un peuple homogène, total et unifié. Un peuple absolument mythique, qui n'existe pas, mais qui se réaliserait dans l'arithmétique du suffrage. Et en réalité, qui oublierait au passage qu'une partie du peuple va se retrouver dans les minorités électorales. Et qu'une des grandeurs et un des honneurs de la démocratie libérale, c'est aussi de défendre les minorités. Je ne veux pas vous rappeler les pages célèbres de Tocqueville, mais elle serait particulièrement pertinente ici. La démocratie libérale, ça n'est pas la tyrannie des majorités. Eh bien, pour le populisme, l'expression électorale majoritaire est la seule qui soit source de légitimité. Et enfin, et pour la même raison, un autre trait caractéristique du populisme est l'appel au plébiscite, au référendum. Et j'ai été particulièrement frappé, d'ailleurs, par que cette passion du référendum revienne dans la bouche de Marine Le Pen à transformer l'élection présidentielle elle-même en référendum. Elle a dit hier à Châteauroux, cette élection présidentielle n'en est pas une, au fond, c'est un référendum pour ou contre la France. Et cette idée qu'on puisse réduire la délibération démocratique à un référendum, à un plébiscite, est le comble de ce qu'on pourrait qualifier d'atrophie ou de rétrécissement démocratique. Et c'est profondément ça, le populisme. C'est une atrophie démocratique.
Michaël Avigel.
Oui, je pense, Thierry Pech vient très bien d'expliquer que, en fait, le populisme est une forme de la crise de notre démocratie représentative en Europe et aussi aux États-Unis. Et je trouve assez intéressant de constater que cette crise frappe en même temps quasiment tous les pays européens. Alors, vu d'Allemagne, on trouvait déjà que le système français avait beaucoup plus de facettes plébiscitaires que la démocratie représentative en Allemagne, à travers justement le recours au référendum. Et on est assez sidéré de constater que la crise est très aiguë en France, Et on le voit effectivement par l'émergence du Front National, dont le recours pour représenter en quelque sorte le peuple qui effectivement dans l'imaginaire de ce parti, une unité en quelque sorte qui a les mêmes intérêts alors qu'il n'en est rien en vérité. Donc, mais aussi à gauche, effectivement, où c'est un petit peu les attaques sur l'Europe et non pas sur l'autre, comme le peuple pour le Front National, où c'est l'autre, c'est-à-dire en général les immigrés qui font la distinction avec le peuple français. Côté gauche, à l'extrême gauche, on voit très bien que c'est l'Europe, l'Union européenne, qui joue ce rôle. Et on peut dire, sans vouloir rejeter complètement le terme de populisme, au niveau de la construction européenne, on est arrivé effectivement à un moment où on a l'impression que l'expression démocratique n'est pas garantie par le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, une partie de cette critique, elle est justifiée. Et par cela, je voudrais dire, pour moi, c'est une explication pourquoi le populisme a pris dans quasiment toutes les sociétés européennes. Actuellement, je pense qu'on arrive quand même à un point où le système européen ne correspond plus aux attentes d'une bonne partie des citoyens. Alors, pour dire deux mots de la situation allemande par rapport à la situation française. On pensait en Allemagne d'être à jamais vacciné contre le populisme, puisque une bonne partie de notre éducation à l'école était basée pour décortiquer comment Hitler est arrivé au pouvoir. Et il faut se souvenir, la démocratie en Allemagne, elle n'est pas explosée d'un coup, mais Hitler est arrivé au pouvoir par des voies légaux. Et il y a eu justement une série de compromissions avec la démocratie qui a fait qu'il a pu justement s'accaparer tous les pouvoirs. Et donc, en apprenant tout cela, on pensait qu'on allait être en Allemagne particulièrement alerte dès qu'il y a quelqu'un qui essaye un petit peu, avec des méthodes bien sûr modernisées, mais quand même en ayant cette référence. Et on voit aujourd'hui, avec l'essor de l'AFD, qu'il n'y en est rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'emprise est beaucoup plus forte dans les Länder qui n'ont pas eu, puisqu'ils ne faisaient pas partie de l'Allemagne occidentale de l'Ouest, qui n'ont pas eu cette éducation que je venais de décrire. Mais il y a quand même aussi une assise dans les pays de l'Ouest. Et donc, je pense qu'on voit finalement, même une éducation très poussée n'est pas un garant pour ne plus voir émerger ses forces.
François Bujon de l'Étang.
Alors, un point d'abord pour dire que je me trouve tout à fait d'accord avec Thierry Pêche sur le fait que c'est un mot difficile, le mot de populisme, c'est un mot valise dans lequel on met effectivement des choses extraordinairement différentes, puisque il est très difficile de mettre ensemble le général Boulanger, le général Perron, Beppe Grillo et le mouvement Cinque Stelle ou le mouvement Podemos, par exemple. Le mot de populisme est un mot effectivement valise, mais j'ai entendu le président Giscard d'Estaing récemment dire que dans le mot populisme, il y a la racine peuple et que par conséquent, il faut le prendre au sérieux. Le populisme, au fond, c'est l'appel au peuple ou la réponse au peuple. Vous dites, Thierry, une atrophie démocratique. Oui, c'est en tout cas une réduction démocratique dans la mesure où ce que le populisme conteste, ce n'est pas tant la démocratie en soi que la démocratie représentative. Et par conséquent, tout ce qui est corps intermédiaire, tout ce qui est démocratie, tout ce qui est gouvernement des juges, il faut d'ailleurs se souvenir que ce terme de gouvernement des juges a été inventé aux États-Unis par le président Roosevelt au moment du New Deal et que nous ne le faisons que l'importer. Mais c'est cela, en fait, c'est la contestation des intermédiaires, d'où le recours volontiers au référendum ou au plébiscite. Et aujourd'hui, dans l'arène politique française, on voit plusieurs candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle en dehors et ou contre les partis. Il y en a au moins trois. C'est évidemment Madame Le Pen, c'est Monsieur Mélenchon, qui est un ex-membre du Parti Socialiste, mais qui a créé un mouvement, un rassemblement qui s'appelle la France Insoumise, et qui est un mouvement citoyen, au même titre que le mouvement d'Emmanuel Macron, En Marche, est un mouvement citoyen qui veut transcender les partis. Alors nous avons cette situation très paradoxale pour l'instant dans la campagne présidentielle française, que nous avons trois candidats, et non des moindres, qui veulent ignorer les frontières des partis, qui veulent ignorer les programmes et les structures des partis, et qui proposent des mouvements qui les transcendent et qui renouvellent le jeu. Et en même temps, nous avons d'autres candidats qui, eux, se sont prêtés au système des partis et au jeu des primaires organisés par les partis. Alors là, nous sommes vraiment en plein paradoxe, parce que les primaires ont été organisées par les partis parce que ceux-ci se révélaient incapables de désigner des candidats par le jeu traditionnel du fonctionnement des partis. Et aujourd'hui, nous avons d'une part le fait que ce sont les candidats qui ont refusé les partis, comme Marine Le Pen, comme parce que le Front National, parenthèse, n'est pas un parti politique, c'est un comité électoral de Marine Le Pen, mais il ne fonctionne pas comme un parti politique, il n'en a pas les structures. Mais nous avons les candidats qui ont refusé les partis, qui ont le vent en poupe, singulièrement monsieur Macron et Madame Le Pen, et nous avons au contraire des partis qui, au bout de leur système, ont inventé des primaires pour pallier leurs propres faiblesses et qui ont produit des candidats, à droite comme à gauche, qui se trouvent aujourd'hui en difficulté parce que ils n'arrivent pas à trouver dans les partis dont ils sont issus les relais ou l'audience nécessaire pour rassembler autour d'eux. Situation totalement paradoxale.
Sylvie Kaufmann.
Oui, avant de poursuivre sur le populisme, juste une petite précision sur ce tweet de Pascal Cherki auquel a fait allusion Thierry tout à l'heure et qui accuse le monde de rouler pour Macron. Je veux juste préciser que nous sommes accusés à la fois de rouler pour lui et de rouler contre lui par son camp. Donc, quelque part, on doit probablement faire notre travail correctement.
Sylvie, pardon, oui. Juste du coup, ça me permet... Il y avait trois sujets possibles autour du populisme, trois cibles possibles. Les juges, dont on a parlé, l'Europe dont on a parlé. J'aurais pu, dans la présentation, et j'y ai pensé, rajouter la presse, qui est l'objet, en effet. Mais en même temps, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? À cause d'un certain malaise, parce que je sais bien, je le sais, je dirais chaque jour un peu plus, l'importance que la presse a pour écarter tous les couvercles qu'essayent de se mettre sur l'information, l'expression, etc., etc. Et en même temps, je vois bien à quel point, notamment en France, grande partie de cette presse non seulement ne fait pas son travail, non seulement ne travaille pas, mais encore se comporte comme si les journalistes avaient été formés dans des écoles hôtelières et pas dans des écoles de journalisme. Et qu'il y a une ambiguïté sur laquelle il faudra peut-être un jour essayer de pouvoir s'expliquer. Mais je saisis l'occasion que Sylvie m'a donnée pour répondre par avance aux auditeurs qui s'étonneraient que je n'ai pas mis la presse dans les trois cibles ou les trois sujets autour desquels tourne le populisme. Pardon, Sylvie.
Non, non. Voilà, il y a quand même une partie de la presse qui fait aussi son travail. Je tiens à le dire.
Oui, mais...
voilà. Alors, en ce qui concerne le populisme et cet aspect melting pot, je suis entièrement d'accord. On met tout et on a tendance aussi à confondre populaire et populiste, d'ailleurs, ce qui n'est pas la même chose. Il y a les traits communs que vous avez décrits. Je soulignerai celui qui me paraît le plus fort, qui est... nous sommes le peuple, les leaders populistes, leur idée forte, c'est nous sommes le peuple, mais nous seuls représentons le peuple, donc à l'exclusion de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ça, c'est quelque chose de très fort, cette négation de l'opposition, de la minorité, des droits des minorités qu'elles représentent, qu'elles soient exprimées par les députés, par des élus, par des intellectuels, par des fonctionnaires. À partir du moment où on n'est pas d'accord, on n'est plus représentatif. L'autre trait commun assez fort, c'est cette position permanente anti-élite, anti-establishment. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup, ces élites qui sont en cause sont les élites du savoir, plus que les élites de l'argent. Et ça, c'est très visible chez Trump, qui lui-même fait partie de l'élite de l'argent. Donc,
plus que l'élite du savoir, ça c'est sûr.
Ouais, oui, très clairement. Et qui s'est entouré d'anciens collaborateurs de Goldman Sachs, après les avoir copieusement dénoncés pendant sa campagne électorale. Donc pour lui, l'élite de l'argent n'est pas à combattre. En revanche, les élites du savoir sont vraiment ses ennemis. Ennemis, mot qu'il utilise d'ailleurs à propos des médias, en disant ce sont les ennemis du peuple. Et je ne sais pas si tous ces électeurs américains sont conscients de la connotation historique de cette expression « ennemis du peuple », mais en tout cas en Europe, c'est quelque chose, comme on dit, qui nous parle. Alors nous avons... en effet, deux applications concrètes actuellement de dirigeants populistes qui ne démentent pas cette appellation. C'est Donald Trump aux États-Unis et c'est en Europe centrale, au sein de l'Union européenne, la Hongrie et la Pologne. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ce que fait Trump, bon, il attaque les médias, il attaque les élites, il communique directement avec le peuple. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très clairement, cette façon de s'adresser directement. Alors, ça peut être par Twitter ou les réseaux sociaux, comme Trump. Ça peut être aussi par des meetings directement. L'expression, le mode électoral du référendum, vous l'avez mentionné, c'est aussi quelque chose de très typique du populisme. Et puis, il y a cette liberté qu'on prend avec les faits, hein, ces faits alternatifs, comme dit la collaboratrice, la directrice de la communication de Trump. Alors ça va des faits totalement faux, les fameux fake news, aux mensonges, aux déguisements, aux travestissements de la vérité. Voilà. Et on retrouve, et puis il y a les attaques contre les institutions démocratique. Aux États-Unis, c'est les attaques contre les agences de renseignement, les soi-disant juges, les institutions culturelles aussi et les médias. En Europe centrale, on a vu plutôt quelque chose qui est très symptomatique aussi, et Pierre Rosanvallon s'est attardé là-dessus, je trouve, a approfondi cette question, c'est les attaques contre le tribunal constitutionnel en Pologne notamment, parce que les cours constitutionnelles sont garante des droits des individus et des minorités. Voilà. Et puis, il y a une politique économique populiste qui est mise en œuvre avec l'attribution de subventions très importantes à chaque famille à partir du deuxième enfant, etc. Voilà. Alors, en France... on voit que Trump fait école, on voit dans le langage de Marine Le Pen qu'elle va vraiment à la source, elle s'inspire très nettement de la tactique et de la stratégie de Trump, y compris dans l'usage des mots. Je trouve intéressant, par exemple, vous avez parlé du clivage ouvert-fermé ou nationaliste-internationaliste qui maintenant tend à recouvrir le clivage gauche-droite, et Marine Le Pen, elle dit, en parlant de Macron par exemple, il est mondialiste, je suis patriote, comme si, mais elle ne dit pas il est mondialiste, je suis nationaliste, elle dit il est mondialiste, je suis patriote, comme si il était impossible d'être patriote et mondialiste, alors qu'il est théoriquement impossible d'être nationaliste et mondialiste. Voilà, et ce qu'on voit, et je terminerai là-dessus, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que en plus des populistes connus et affichés, si je puis dire, que sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, on a maintenant, dans un parti de gouvernement, enfin un parti établi, qui est les Républicains, une tendance populiste qui est incarnée par François Fillon. À partir, bien entendu, de ses démêlés judiciaires, il a utilisé ces thèmes populistes contre les juges, contre les médias, le complotisme, le lynchage, l'assassinat politique, comme pour se défendre ou se sortir de l'ornière dans laquelle il se trouve. Mais je crois que c'est plus profond. Je crois que c'est un tournant qu'il est en train de prendre, qui correspond à un constat qu'il a fait sur le terrain, peut-être pendant sa campagne pour les primaires, où il a vu qu'il existait vraiment vraiment une France, une partie de l'électorat français qui est en colère, qui est en détresse, qui est en désarroi, et il veut labourer ce terrain. Et des gens comme Alain Juppé, dans son propre parti, s'en alarment. Et on a vu dans la réaction d'Alain Juppé l'autre jour à quel point il voulait marquer sa différence.
Thierry Pech.
Oui, deux remarques. La première pour dire, parce que c'est un point manquant de notre discussion, il a été évoqué rapidement par Michaela. Le populisme n'arrive pas dans les sociétés occidentales et européennes en particulier par hasard aujourd'hui. Il arrive aussi parce que le terrain est prêt. Et le terrain, il est fait de quoi? Il est fait d'un grand déficit d'intégration sociale de pans entiers de la population. Et ça, je veux dire, le populisme est de ce point de vue-là le symptôme d'un problème qu'il faut régler. Il ne s'agirait pas de dire les populistes sont simplement des gens qui viennent vendre des mensonges. Non, ils sont l'expression d'un problème réel en même temps. Deuxième point. Pour revenir sur à la fois ce qu'a dit François concernant les partis et ce que vous avez dit, Philippe, sur la presse. Il ne s'agit pas de dire que les médiations seraient au-dessus de tout soupçon et qu'on ne serait pas légitime à les critiquer. Bien sûr qu'on peut critiquer, bien sûr qu'on doit d'une certaine façon critiquer. Nous autres, même autour de ces micros, nous exerçons une forme de pouvoir de vigilance, de contre-pouvoir. Nous sommes la presse aujourd'hui, par exemple. Bon, et il est naturel, parce que c'est notre fonction, que nous critiquions les régulations, y compris la nôtre même. Bon, c'est pas ça le point. Le point, c'est que les populistes, c'est pas qu'ils sont simplement insatisfaits de la façon dont les contre-pouvoirs sont exercés, c'est qu'ils sont insatisfaits des contre-pouvoirs eux-mêmes. Ils considèrent que le contre-pouvoir en lui-même, en soi, est une forme de corruption. De la démocratie plébiscitaire à laquelle ils aspirent. Ils considèrent que le pouvoir intellectuel, par exemple, est une forme de corruption. Moi, je dirige une fondation qui propose des idées, qui travaille dans le champ intellectuel. On est décrit, dépeint, brocardé comme les confesseurs des princes qui corrompent le pouvoir, les jésuites, le complot maçonnique. En gros, c'est ça qu'on nous renvoie. C'est pas simplement « vous avez tort », c'est « vous êtes par votre nature même, vous ne devriez pas être là ». Par votre nature même, vous, la presse libre, vous ne devriez pas pouvoir parler comme ça. Vous n'êtes pas élu. Par votre nature même, vous, les juges, vous ne devriez pas pouvoir exercer ce pouvoir que personne ne vous a confié. Mais au fond, ce qui est ignoré à travers tout ça, c'est que la démocratie, c'est l'articulation de plusieurs légitimités. Si la démocratie se résumait à la légitimité électorale, elle deviendrait irrespirable. Il y a d'autres formes de légitimité. La Constitution, vous avez évoqué le problème de la Cour constitutionnelle en Pologne. La Constitution, c'est quoi? C'est la garante sur le long terme d'un certain nombre de valeurs que le peuple, dans sa grande sagesse, autrefois, dans des temps fondateurs, 58 pour nous, enfin on a eu beaucoup de moments fondateurs dans notre histoire en français, c'est un mauvais exemple. Je crois 14 moments fondateurs, ça fait trop de fondations quand même, il faudrait arrêter. Mais... voilà, on conserve la promesse qui a été scellée dans un accord avec le peuple au-delà des circonstances. Et il faudrait réunir des pouvoirs particuliers pour modifier cette promesse. On ne peut pas s'asseoir sur ces formes de légitimité. Je crois qu'il faut les critiquer démocratiquement. Et là-dessus, Pierre Rosanvallon, que vous avez cité, Sylvie, a tout à fait raison.
Michael Avigal.
Oui, je remercie Thierry parce que je pense que c'est un point très important d'affirmer que ce populisme, même dans ce terme valise, mais on comprend tous que ça exprime quelque chose de réel, une réelle insatisfaction. Je prendrai comme exemple vraiment l'Union européenne parce que je pense que c'est l'exemple le plus pertinent pour... pas justifié, mais pour expliquer l'émergence du populisme. Il vaut toujours mieux critiquer son propre pays, on peut dire qu'en Allemagne, la construction européenne était essentiellement une construction de l'élite. On n'a jamais demandé au peuple allemand, aux citoyens allemands, s'ils étaient d'accord ou pas. On a considéré que c'était normal. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, on a le rejet qui est engendré quand on a, pendant trop longtemps, ne pas consulter. Je ne dis pas que le peuple a toujours raison, mais je pense qu'il est très important d'impliquer les citoyens dans une construction qui, quand même, est aujourd'hui très, très présente dans la vie de tous les jours. Et je crois donc, en quelque sorte, on ne peut pas nier la pertinence de la critique.
François Bujon de l'Étang.
Deux brèves remarques en écho à ce qui a été dit par les uns et par les autres. La première, pour dire que tous les populismes que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui ont un point commun, que ce soit le Brexit, que ce soit M. Trump, que ce soit les candidats français qui se réclament du populisme, c'est l'aspect nationaliste, xénophobique, hostile à l'étranger, hostile à la mondialisation, hostile à l'Europe, hostile au libre-échange. Tout cela va ensemble et tout cela est finalement une espèce de terrain commun qu'ils ont trouvé, chacun dans sa circonstance propre. C'est ce qui a fondé le vote britannique, c'est ce qui fonde l'attitude de M. Trump, c'est ce qui fonde l'hostilité à l'Europe que l'on trouve aussi bien au Front National que dans d'autres endroits du spectre politique français. Je ne sais plus qui disait qu'être patriote, c'est aimer son pays, être nationaliste, c'est détester les autres. Il y a un fond de vérité, je crois, dans cette remarque, et il y a un joyeux mélange des deux, en tout cas dans les populismes qui sont actuellement à l'œuvre. Première remarque. Deuxième remarque, pour dire que je ne suis pas convaincu par l'idée qu'on entend ça et là, dont Sylvie s'est fait l'écho, d'un virage populiste chez M. Fillon. Je pense qu'il y a des propos chez M. Fillon qui sont dérangeants, parce que ce sont les propos contre les juges, etc. Mais je pense qu'ils sont très largement circonstanciels et dus à sa difficulté à cause de ce que l'on appelle le Penelope Gate. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on fait à Penelope et pas à Marine l'honneur de ce suffixe infamant de Gate. Mais c'est comme ça. Mais je pense que c'est circonstanciel, que ce n'est pas doctrinal. Et c'est ça qui est très important. Quand Juppé parle de la radicalisation de l'électorat de M. Fillon, c'est qu'il s'inquiète de voir que les électeurs de M. Fillon ne sont pas ceux de l'UMP qui voulaient rassembler vers le centre et qui sont beaucoup plus focalisés sur les valeurs de la droite traditionnelle. Mais je ne vois pas de virage populiste, indépendamment de questions circonstancielles dont nous parlons. Je vois au contraire chez M. Fillon une volonté de parler de son programme et une volonté de s'appuyer sur les structures de son parti politique.
Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à l'avenir de la construction européenne, puisque les 27 dirigeants des États membres de l'Union se réuniront à Rome le 25 mars, sans le Royaume-Uni, pour célébrer les 60 ans du traité instituant la Communauté économique européenne. Cet événement a amené le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, à présenter le 1er mars un livre blanc sur l'avenir de l'Union européenne qui se veut le coup d'envoi d'une réflexion et propose plusieurs scénarios d'évolution d'ici à 2025. Le document évoque 5 directions possibles, depuis une union réduite à un marché commun jusqu'à la construction d'une Europe fédéraliste unie par les mêmes normes sociales et défendue par une armée commune. François Hollande a réuni le 6 mars à Versailles la chancelière allemande Angela Merkel, le président du Conseil italien Paolo Gentiloni, le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, pour un sommet sur l'avenir de l'Union européenne. Le quatuor a plaidé pour la mise en place d'une Europe à plusieurs vitesses, basée sur des coopérations différenciées. Ce nouveau mécanisme verrait certains États membres approfondir les domaines de la défense commune, de l'union économique et monétaire et de l'harmonisation fiscale et sociale, comme la culture ou la jeunesse. Afin d'aller plus vite et plus fort à quelques pays, François Hollande a affirmé que les autres États membres ne seraient pas écartés du projet, mais ne pourraient pas non plus s'y opposer, l'unité de l'Union n'imposant pas son uniformité. Cette rencontre de Versailles s'est tenue dans un contexte politique décisif pour l'orientation du projet européen. Des élections législatives auront lieu aux Pays-Bas mercredi, alors que le parti d'extrême droite VVD mené par Geert Wilders est en tête dans les sondages. L'État allemand de la Sarre organisera le 26 mars un scrutin qui aura valeur de test avant les élections au Bundestag en septembre. Le parti anti-européen AfD a déjà intégré 10 parlements régionaux en Allemagne sur 20. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a été reconduit à son poste vendredi à l'issue d'un sommet organisé à Bruxelles et malgré l'opposition du gouvernement polonais dominé par le parti eurosceptique Droit et Justice. Cette rencontre devait initialement permettre à la première ministre britannique d'invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne, enclenchant les négociations pour sortir de l'Union européenne, mais ce projet a été bloqué par la Chambre des Lords qui a adopté un amendement exigeant que tout accord de sortie de l'Union soit soumis à un vote du Parlement britannique. Sur cette question, Michael Avig.
Oui, alors que le mandat de François Hollande et d'Angela Merkel s'achève pour l'un pour vraiment dire au revoir et pour l'autre, on ne sait pas encore si elle va être reconduite. on voit que c'est un moment un peu curieux pour devoir, en quelque sorte, célébrer les 60 ans du traité de Rome et d'aller de l'avant, parce que tous les deux ont derrière eux un mandat où, quand on regarde, le moteur franco-allemand était décidément en panne. En tous les cas, il n'a pas pu éviter le Brexit, il n'a pas pu éviter non plus l'impression que, juste à maintenant, on ne pouvait rien proposer pour l'avenir de l'Union européenne et fêter dignement cet anniversaire des traités de Rome. Alors, ce sommet de Versailles est arrivé comme, en quelque sorte, une proposition de dernière minute qui tirait un peu les conclusions de cette panne du moteur franco-allemand. On se souvient que François Hollande avait déjà essayé d'élargir le couple aux Italiens à l'époque de Renzi. Ça n'avait pas marché, en tous les cas, ça n'avait pas donné des avancées escomptées. Et donc, cette fois-ci, on a invité M. Rajoy pour, en quelque sorte, donner plus de poids. Alors, la nouveauté, c'était surtout que l'Allemagne soit d'accord, parce que jusqu'à maintenant, Angela Merkel et auparavant ses prédécesseurs avaient toujours refusé de créer de sorte de directoire des grands, en disant ça va, la force de division qui émane de ces directoires est plus forte que la possible proposition qui puisse lancer pour l'Union européenne. Angela Merkel, à Malte, a pour la première fois publiquement s'est exprimée en disant qu'elle était désormais pour une Europe à plusieurs vitesses. Alors, c'est à mon avis le résultat direct de ces problèmes qu'elle a eu pendant la crise des réfugiés, où elle a vu qu'elle ne pouvait avancer avec toute l'Europe et que ça a abouti à un blocage et à une non-solution. D'ailleurs, la question est toujours bloquée. Et donc, désormais, elle favorise une Europe à plusieurs vitesses. En même temps, la nouveauté est quand même assez limitée parce que dans beaucoup de secteurs, on a déjà avancé dans des cercles divers. C'est valable pour Schengen, c'est valable pour l'euro. Et donc, on voit bien que c'est pas seulement une idée novatrice. Et on a vu surtout que de Versailles, très peu de propositions substantielles ont résulté. On voit plutôt une Europe éclatée. Tout le sommet de vendredi était dominé par le refus de la Pologne. Et on voit d'ailleurs que vis-à-vis de la Turquie, on a beaucoup de mal à avoir une attitude commune. La France autorisant le ministre d'Erdogan de faire une campagne pour le renforcement des pouvoirs d'Erdogan et le Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne refusant de donner les terrains pour ce projet d'Erdogan.
François Bujon de l'Étang.
C'est le 25 mars que l'Union européenne va fêter son 60e anniversaire. En fait, si on y réfléchit, 60 ans, ça n'est pas très vieux. C'est même en réalité la force de l'âge, comme dirait Simone de Beauvoir, par exemple. Au fond, à 60 ans, c'est vrai, on se fatigue un petit peu plus vite, on perd un peu d'énergie et de créativité. Pas tout le monde, mon cher Philippe, pas tout le monde. On souffre un peu d'arthrose, on a des articulations douloureuses. On a quelques pannes de temps en temps. Il y en a eu avec le référendum de 2005 en France, par exemple, ou aux Pays-Bas. On prend du poids avec l'élargissement, par exemple, à 28. Mais aussi avec la bureaucratie, avec la réglementation. On a une grande perte de séduction et d'attractivité, en tout cas. Ça me paraît à peu près clair. Et c'est ce qui se vérifie dans nos opinions publiques. Parfois, ça va même jusqu'au divorce. C'est le cas du Brexit. Mais enfin, 60 ans, ça n'est jamais que 60 ans. C'est pas dramatique.
C'est un plaisir de vous inviter, François.
Ce que je trouve rare, ce que je trouve intéressant, c'est que l'Union européenne, elle, fait preuve d'une sénescence légèrement accélérée, tout de même. Parce qu'en réalité, son encéphalogramme est quand même très, très, très proche d'être plat. Elle souffre d'un manque de leadership total. Les héros sont fatigués, je le sais bien, mais en Europe plus qu'ailleurs, semble-t-il. Monsieur Juncker à la tête de la Commission ou Monsieur Tusk à la tête du Conseil européen, avant d'être reconduit contre l'avis de son propre pays, n'ont pas brillé de mille feux ni déployé des trésors de créativité. Donc c'est de cela qu'il faut se préoccuper. Et les dirigeants actuels des grands pays européens, qui se sont rassemblés à Versailles donc la semaine dernière, n'ont pas fait preuve de beaucoup de créativité. Inventer aujourd'hui ou dire que l'on invente l'Europe à plusieurs vitesses, c'est un peu comme M. Al Gore, le vice-président de Clinton, qui prétendait avoir inventé l'Internet. Je veux dire, l'Europe à plusieurs vitesses, elle existe depuis plusieurs décennies et il s'agit simplement, probablement, de favoriser ce type d'approche. Mais ça va être difficile de relancer un mouvement aussi en panne que le mouvement européen d'aujourd'hui et qui, surtout, est en tel décalage avec ce que demandent les opinions publiques. C'est ça le vrai défi qui se pose aux dirigeants européens. Il va falloir trouver des idées qui permettent de réconcilier les peuples avec l'idée de l'Europe. Que l'on fasse une pause aujourd'hui, que l'on arrête l'élargissement, que l'on s'efforce de remettre un peu les choses à plat, c'est tout à fait légitime, normal et sain. Mais il faut essayer de trouver des idées pour aller de l'avant. Et il me semble, compte tenu de l'état de nos opinions, que les seules idées qui puissent trouver un écho parmi elles seraient des idées protectrices. C'est pour ça que se tourner vers l'idée d'une Europe de la défense, mettre l'accent sur le renforcement des frontières de Schengen, par exemple, ce sont des idées qui peuvent être présentées comme protectrices et qui sont susceptibles de recueillir une certaine adhésion populaire.
Sylvie Kaufmann.
Alors, comment sauver l'Europe quand elle est si mal en point? C'est vrai que ça paraît un défi immense, et avec ce problème immédiat qui est que le moteur franco-allemand, qui de la vie générale est le seul qui peut la relancer, est à l'arrêt pour cause d'élections dans les deux pays, entre autres. Mais en même temps, l'Europe, elle existe dans bien plus qu'on ne veut le croire et qu'on ne le dit. Et il y a cette confusion aussi totale, je crois, dans l'esprit des gens qui, d'une part, se prononcent pour des partis eurosceptiques. C'est vrai que tout à travers l'Europe, ces partis hostiles, ou soit à l'euro, soit à l'Europe, n'ont jamais paru aussi puissants. Mais en même temps, les sondages, regardez en Pologne, en France, les sondages montrent que les gens veulent. En France, il y a eu un sondage il y a quelques jours qui disait que 3 Français sur 4 voulaient rester dans la zone euro. En Pologne, c'est un des pays dont le gouvernement est en guerre pratiquement ouverte contre l'Union européenne. C'est pourtant un des pays où l'opinion publique est la plus pro-européenne. Donc il y a cette confusion dans la tête des gens dont je crois les dirigeants tiennent compte, et ceux qui sont du moins pro-européens parmi eux, parmi nos dirigeants, essayent de profiter. Alors il y a dans cette idée de l'Europe à plusieurs vitesses, je crois, une réalité, c'est exact, elle existe déjà, mais sur laquelle Angela Merkel et François Hollande veulent essayer de construire quelque chose et d'aller plus loin. Il y a des choses qui se font, qui passent inaperçues, rien que ces derniers jours. Par exemple, à Bruxelles, il y a eu la création, encouragée par la France et l'Allemagne, d'un état-major européen qui pour l'instant se limite aux missions de formation militaire, mais qui a vocation à partir de 2018 à s'étendre à des missions opérationnelles. C'est un projet contre lequel la Grande-Bretagne a bataillé tout tant qu'elle était au sein de l'Union européenne. Maintenant, elle ne résiste plus parce que ça ne l'intéresse, ça n'est plus un enjeu pour elle. Mais cette création de cet état-major a été décidée à Bruxelles sans qu'il y ait d'objection de la part des 28 membres. Et c'est une mission qui va entrer en œuvre très rapidement en Somalie, au Mali et en République centrafricaine. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut préfigurer déjà cette Europe de la défense dont on a parlé. Autre chose qui est en train peut-être de se créer, c'est un parquet européen. On voit les prémices dans une initiative de 17 pays qui se sont déclarés intéressés par une participation au lancement d'un parquet européen pour enquêter sur les fraudes européennes. C'est dans les conclusions du sommet de Bruxelles de l'autre jour. C'est l'illustration de cette coopération renforcée qui est prévue par les traités européens. Ça a l'air d'être du jargon, mais c'est ça l'Europe à plusieurs vitesses. C'est des tâches précises sur lesquelles les pays qui ont envie de se mettre, les tâches auxquelles ils ont envie de s'associer, ou peuvent le faire à partir du moment où il y a un minimum de 9 États membres. Voilà, ça ne simplifie pas les choses, mais ça montre qu'il y a une réalité qui existe.
Thierry Pêche. Moi, je trouve ça très très bien, hein, l'Europe à plusieurs vitesses, mais enfin, il faut bien reconnaître que pour le moment, des vitesses, il y en a principalement deux, c'est le point mort et la marche arrière. C'est ça, malheureusement, le paysage. Quand on fait la liste des gens qui sont autour de la table pour essayer d'enclencher la première, ne serait-ce que celle-là, pour vaincre l'inertie, vous savez, comme on dit dans les écoles de conduite, il y a François Hollande qui, dans quelques mois, ne sera plus là, Madame Merkel qui n'est pas sûre elle-même de survivre au mois de septembre, Monsieur Gentiloni, Premier ministre italien, qui lui-même aura probablement à se présenter devant les électeurs avec un succès qui n'est pas garanti, Mariano Rajoy qui est quasiment minoritaire dans son pays, les Pays-Bas qui sont en campagne, etc., etc. Donc tout ça n'est pas le gage d'un élan et d'un grand mouvement. Et pourtant, bien sûr, il faudrait un grand élan sur les sujets principaux. Et il y en a deux qui sont, à mon avis, principaux. Il y en a un qui est la défense, de fait, et ça c'est un sujet assez nouveau et qui nécessitera la réintégration du Royaume-Uni, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire une Europe de la défense sans le Royaume-Uni.
Pas la réintégration, mais un accord nécessairement. Oui,
oui, la réintégration, oui, une coopération. Oui. Absolument, vous avez raison. Alors ça, par contre, ils ont choisi de quitter l'Union européenne, bon vent. Et l'autre sujet, c'est la zone euro. La monnaie unique est une monnaie incomplète du point de vue économique. Il faut la compléter. Il faut la compléter avec un parlement de la zone euro. Il faut la compléter avec un budget de la zone euro. Il faut la compléter avec un ministre des Finances de la zone euro. Voilà les trois choses qu'il faudrait faire. Mais pour faire ces trois choses, il faudrait modifier les traités. Et pour modifier les traités, il faudrait un accord à l'unanimité des 27 États membres, 28 si on compte encore le Royaume-Uni parmi eux. Et bien sûr, on n'aura pas cette unanimité parce que l'hypocrisie, notamment de l'Europe de l'Est, consiste à dire l'Europe est couverte de tous les maux, elle est responsable de tous nos problèmes, mais en même temps, s'il vous plaît, n'y touchez pas. Nous, notre position favorite, c'est le point mort. Parce que quand même, ça rapporte cette affaire.
Parce que les fonds structurels
continuent de payer. Voilà, exactement, ça rapporte cette affaire. Donc ce serait dommage de s'en passer. Or, s'il y avait un budget de la zone euro, il pourrait prendre une partie de l'énergie qui aujourd'hui nous revient. Donc l'hypocrisie de Visegrád est considérable, elle est abjecte. Et si elle se poursuit, elle conduira à une scission de l'Union européenne, très probablement, et peut-être même qu'elle sera souhaitable.
Michaela Wiegel.
Oui, c'est un point très important. J'ai brièvement mentionné comment la Pologne, le gouvernement polonais, a quasiment bloqué le dernier sommet juste pour éviter la reconduction d'un Polonais, Donald Tusk. Et on voit là l'expression, justement, d'une utilisation des mécanismes européens pour empêcher quelque chose, mais non pas pour avoir une démarche constructive. Et ce qui était intéressant, c'est que les autres pays du Visegrád n'ont pas soutenu la Pologne dans cette démarche. Donc, on a non seulement une attitude de blocage, mais on voit aussi que c'est des alliances très variables, c'est-à-dire c'est vraiment le pire qui puisse arriver à l'Europe. C'est une division au cas par cas et un blocage donc qui, je pense, malheureusement, cette Europe à plusieurs vitesses, c'est juste une façon de passer le moment de l'anniversaire, comme malheureusement, vous vous souvenez, quand il est tombé sur Angela Merkel et François Hollande, juste à l'arrivée de François Hollande de fêter les 60 ans du traité de l'Élysée, on devait passer ce moment et donc du coup on a offert quelque chose au public sans que ça ait plus de substance que ça.
François Bugeon de l'État.
Juste un petit mot d'optimisme pour répondre à la remarque très juste de Thierry Pêche sur l'hypocrisie concernant la révision des traités. On n'est pas forcé de réviser les traités. On peut avancer sans réviser les traités. D'abord, la notion de coopération renforcée existe dans les traités. On n'a pas besoin de l'inventer. Elle existe. Il suffit de l'exploiter. Et ensuite, on peut toujours imaginer, notamment dans le domaine de la défense, qui n'est pas couvert par les traités, de conclure de nouveaux arrangements qui seraient limités aux pays qui souhaiteraient y participer, ce qui permet d'y associer, bien entendu, le Royaume-Uni dans la mesure où il accepte d'en faire partie.
Sylvie Kaufmann.
Voilà, moi aussi je veux rajouter un petit peu d'optimisme, même si je suis convaincue qu'on a commis beaucoup d'erreurs et que ce sentiment de scepticisme est profond et qu'il ne faut pas, être aveugle et il faut l'analyser à fond. Mais si on prend la théorie du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, on peut aussi le voir plein. Regardez, on a dit que la zone euro allait éclater avec la Grèce et la crise de la dette, elle n'a pas éclaté. On a dit que Schengen allait éclater avec la crise des réfugiés, on a renforcé Frontex et on a créé une agence de garde-frontière européenne. C'est quand même important. Ce sommet de Versailles n'a pas donné décision, mais parce qu'on ne pouvait pas dire que quatre pays allaient imposer un diktat aux autres. Donc c'était une initiative, mais dont on savait qu'elle n'allait pas aboutir à une décision. Le sommet européen a donné le spectacle de la Pologne qui s'opposait à la reconduction d'un de ses propres ressortissants à la tête du Conseil européen, mais il a abouti à la reconduction de Donald Tusk. Et les Polonais ont été obligés de repartir la queue entre les jambes, si je puis dire, avec un sentiment d'humiliation terrible et un sentiment d'isolement, puisque, comme l'a dit Michaela, le groupe de Visegrad en fait a éclaté. Les Tchèques sont de manière assez ostentatoire très méfiants maintenant. Orban a lâché Kaczynski sur ce coup-là, et la Pologne est en train de se rendre compte que maintenant qu'elle n'a plus l'allié britannique hors de la zone euro pour la soutenir, l'allié américain, il est franchement pas, on peut pas trop compter dessus non plus. Finalement, elle va peut-être finir par comprendre que son intérêt est de jouer le jeu européen.
François Bugeon de l'État.
Non, moi je suis d'accord avec cela. On pourrait même pousser l'exercice d'optimisme un peu plus loin. Ah. Et finalement, mais si vous voulez, essayons.
Essayons.
Vous pouvez même dire, si vous voulez, que dans l'espèce d'inventaire qu'a fait Monsieur Juncker de 5 solutions ou scénarios possibles, dont il ne recommande aucun, il y a quand même des choses qui permettent d'avancer un petit peu. C'est peut-être une meilleure façon, finalement, de parler de l'Europe au peuple, de parler, je veux dire, de convaincre les peuples que l'Europe n'est pas contre eux, si l'on donne l'impression que l'Europe, construction technocratique par essence, ne cherche pas à imposer une solution, mais met les dirigeants européens, nationaux, devant leurs responsabilités.
Michaela Wiegel.
Très brièvement, juste sur la zone euro, qui est quand même notre plus grand vecteur d'avenir, en quelque sorte. Là, on doit forcément passer par un changement des traités. Et je pense que ce sera vraiment le grand défi des prochains dirigeants franco-allemands, parce que c'est là où vraiment se jouera l'avenir de l'Europe, à mon avis, plus que sur la défense qui... pas tous les jours dans nos mains.
Thierry Dupin. Thierry Dupin, c'est son de Thierry Pêche, c'est parce que je compte parler et du
Eric,
livre
Eric d'Éric Pêche, Dupin. Thierry Dupin. Alors moi, je m'appelle Thierry Pêche.
Très bien. Vous êtes venu avec vos parents?
Non, j'aurais beaucoup aimé, malheureusement. Je pense que ce dont il va falloir parler sur l'Europe, c'est pas tant des projets. Là, je crois que les choses sont assez claires. Par exemple, sur la zone euro, on pourrait trouver un certain consensus, me semble-t-il. Par contre, ce dont il faut parler aux opinions publiques, c'est comment on fait ça? Avec qui? Il faut faire de la politique aujourd'hui dans l'ensemble européen. Et il faut dire avec qui on va s'allier, comment on va faire pour contraindre un certain nombre de gens à ne pas s'opposer, parce qu'effectivement, il faudra une révision des traités pour tout ce qui concerne le complément de la monnaie unique.
Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Comme vous l'avez compris, il s'agit d'un Dupin dont je voudrais parler, qui s'appelle Éric Dupin et non pas Thierry, qui publie La France identitaire, enquête sur la réaction qui vient aux éditions de La Découverte. Alors, enquête, ça veut dire en fait série d'interviews qui vont de Alain de Benoît, La Finkielkraut, Renaud Camus, mais ce sont des interviews à la Éric Dupin, c'est-à-dire ça n'est pas simplement le recueil ou le petit jeu du ping-pong des questions et des réponses, c'est aussi une sorte d'analyse à l'intérieur. Bref, par rapport à ce populisme dont on parle tout à l'heure, c'est-à-dire à ce que nous avons tous évoqué à un moment donné, c'est que ce populisme ne vient pas de nulle part. Et c'est ça qui intéresse Thierry Dupin, c'est
Éric Dupin, si
pardon.
Vous
est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Un psychiatre, un psychanalyste, je ne sais pas. Donc, ce qui intéresse Éric Dupin, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure. D'où vient ce populisme? De quoi est-il la réaction? Pardon, j'ai mangé le temps de parole de tout le monde. Il vous reste, vous vous rappelez comment déjà? Thierry Pêche, il vous reste un petit moment pour nous dire quelque
Alors,
chose.
Alors, je voudrais vous recommander très chaleureusement un livre qui est à la fois un livre d'histoire des sciences et un livre sur ce que c'est qu'être chercheur en physique. Le livre d'Antoine Letessier-Selvon qui s'appelle Cosmos, avec un K, comme Kafka par exemple. Et vous y trouverez à la fois la formidable aventure qui a été celle de la physique des particules et en même temps ce que c'est qu'être chercheur. C'était vraiment un très beau livre. On y apprend des tas de choses sur comment Max Planck par exemple a choisi de faire de la physique, juste pour l'anecdote et vous faire sourire, vous en avez besoin Philippe ce matin. Max Planck est allé voir son futur directeur de thèse et lui a dit qu'il voulait faire une thèse, et l'autre lui a dit c'est pas la peine, en physique on sait tout maintenant, il suffit juste de boucher des trous. Il a dit bon, moi je veux juste comprendre les fondements de la physique, et ce faisant il a ouvert une porte qui allait donner sur 130 ans d'efforts. Et derrière, il y aurait Einstein et les autres. Voilà, c'est un livre fantastique. Cosmos, Antoine Letessier-Selvon.
Vous savez ce que disait Alexandre Vialat de Kafka? Il disait, c'est Pascal interprété par les Fratellini. Sylvie Goffman.
Alors moi, je voudrais vous inviter à aller au cinéma, voir le dernier film d'Andrzej Wajda, Les Fleurs Bleues. C'est un film auquel il tenait beaucoup à terminer avant de mourir, puisque Wajda est mort l'année dernière. Et c'est l'histoire d'un peintre polonais, Władysław Strzemiński, qui est un des fondateurs de l'art contemporain, qui était un ami de Kandinsky et de Malevich. Et ce film, tragique mais magnifique, raconte la descente aux enfers de ce peintre à l'époque stalinienne de la Pologne, entre 48 et 52, et comment le régime l'a petit à petit privé, vraiment à petit feu, jusqu'à sa mort, d'exercer son métier de peintre et d'exercer son art.
C'est Michael Avigel.
Oui, décidément, je suis pas portée par l'optimisme aujourd'hui. Je voulais vous recommander le livre de Laurent Bouvet, La gauche zombie. C'est en fait un ensemble des chroniques qu'il a publiées depuis 2011 et qui illustre, à mon avis, de façon excellente comment le mandat de François Hollande a pu s'achever tel qu'il s'achève. Laurent Bouvet, c'est celui qui a je vais probablement me faire contredire, mais qui a alerté très tôt sur cette insécurité culturelle qui avait...
Oui, c'est le titre d'un de ce livre.
Voilà, exactement.
François Bujon de l'Étang.
C'est au rayon des commémorations que j'emprunte ma brève d'aujourd'hui, simplement parce que nous sommes le 12 mars et que c'est le 15 mars que le tsar Nicolas II a abdiqué. C'est l'anniversaire de la Révolution russe. Non pas du coup d'État bolchevique d'octobre, dont nous entendrons parler abondamment, j'en suis sûr, à l'automne prochain, mais de ce qui était une révolution libérale, démocratique et parlementaire en Russie. Si je crois on ne la commémore guère, c'est parce que M. Poutine n'a pas un penchant avéré pour les révolutions démocratiques, libérales et parlementaires, qui lui rappellent de mauvais souvenirs, et qu'il préfère s'apesantir sur les contributions de Staline à la Grande Guerre patriotique.
Je vous remercie. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Éric Boisset, Tahar Bouklifa et Fabien Capel. Vous avez rendez-vous avec Alain Crugère, qui reçoit le président des Amis de Jean de La Fontaine et qui s'interrogeront ensemble sur qui mange qui dans les fables. Il me reste à remercier le public de ce studio qui est venu en dépit du beau temps pour nous soutenir et nous entendre.